Mes amis, c'est encore une joie ce matin de partager la parole de Dieu, parce que j'ai lu un passage ces jours-ci qui m'a fait beaucoup de bien en relisant l'évangile de Luc. Il est dit que le Sauveur est la lumière pour éclairer les nations. Et aujourd'hui, on pourrait dire, oh, la Bible, c'est ringard. La parole de Dieu, c'est ringard. Non. La parole de Dieu, elle a été envoyée pour éclairer les nations et elle peut encore éclairer les nations aujourd'hui à travers nous qui sommes la lumière du monde, représentants de Jésus-Christ ici-bas. Quelle merveilleuse réalité de savoir que cette parole de Dieu que vous écoutez, que je médite à longueur de temps, elle peut encore avoir de l'impact dans les nations aujourd'hui. Aux quatre coins de la terre. Vous réalisez ça? Ce que nous allons partager maintenant, c'est une bombe. C'est une vérité puissante qui peut bouleverser les cœurs dans les nations. Et aussi, il est dit que c'est la gloire d'Israël. Il y a heureusement des Juifs qui aujourd'hui se tournent vers le Seigneur. Alors, je vais essayer de faire marcher ça. Vous voyez ça assez, hein? Pas tellement. Hein? Il y a trop de lumière. On va pas se plaindre, hein, qu'il y a trop de lumière. La voie par excellence, si vous n'arrivez pas à lire, c'est le thème du jour, la voie par excellence. Je peux vous dire que ce chapitre 13 des Corinthiens est peut-être le chapitre que je redoute le plus de toute ma carrière. J'ai jamais trop voulu aborder le thème de l'amour. Pour moi, c'est un thème tellement difficile et tellement humiliant pour nous qui sommes tellement limités, en tout cas pour ma part, dans l'amour que j'ai pour mon Dieu et pour les autres. Donc, je me suis attaqué quand même à ce chapitre et c'est franchement formidable d'aborder ce chapitre 13 qui est une bombe. Quelques rappels, vous qui étiez là il y a quelques semaines, nous avons abordé le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens qui parlait des dons spirituels et vous vous rappelez que vous avez reçu, si vous êtes en Christ, mes amis, vous avez reçu un capital spirituel, solidaire. Une sorte de sac de blé, on avait pris cette image, ce sont des charismes, des dons. Une diversité de dons. L'Église, aux yeux des nations, peut démontrer qu'il est possible de vivre dans la diversité, en particulier la diversité des dons, mais il y a plein d'autres diversités culturelles, etc. Mais dans l'unité d'un corps dont vous êtes un membre indispensable, j'insiste, indispensable, si vous faites partie du corps de Christ, vous êtes un membre indispensable au bon fonctionnement du corps. S'il y a un organe dans notre corps qui se dérègle, qui ne joue plus son rôle, le corps tombe malade. Un seul. J'ai pris une douleur l'autre jour dans le poignet. C'est parti depuis. Bon. C'est impossible de porter une casserole. C'est pourtant rien de porter une casserole, mais j'arrivais même plus à porter une casserole. Tellement c'était douloureux. Un membre suffit à poser problème. Un don spirituel, nous avions vu, et ça c'est la définition la plus importante qu'il faut retenir du don spirituel, c'est que le don spirituel, le don qui est donné par l'Esprit Saint, n'est jamais donné pour notre édification personnelle. Même si en retour de notre exercice de don, nous recevons évidemment de l'édification. Mais au premier abord, un don spirituel est toujours donné pour l'utilité commune.
toujours donné dans le cadre de l'Église. Alors, avez-vous réfléchi au don que vous avez reçu ? Et j'ai mis le don au singulier, mais j'aurais pu mettre un petit S entre parenthèses, parce que peut-être vous avez plusieurs dons. Alors, revenons sur la liste des dons proposés dans la Bible, parce que cela peut vous aider peut-être à discerner votre don. L'Esprit va vous titiller sur un domaine, ou il va vous éprouver sur un domaine, et vous allez vous rendre compte que vous êtes, oui ou non, habilité à exercer ce don-là. Donc on va le faire assez vite, mais on a manqué un peu de temps la dernière fois. Donc je voulais revenir là-dessus. C'est une liste de charismes qui n'est pas exhaustive. Dieu, dans son immensité, n'a pas pu limiter une liste de dons à ce que je vais vous dire. Mais c'est aussi une liste où les dons peuvent être cumulables. Vous pouvez avoir un don qui se combine avec un autre. N'ayez pas peur. Alors, ça c'est une classification qu'on fait, mais il y en a d'autres, hein. C'est pour vous donner un petit peu une vision schématique du plan de Dieu quand il donne des dons, des charismes. Il y a ce qu'on appelle les dons missionnaires, les charismes missionnaires. Il y a les charismes pastoraux, il y a les charismes sociaux. C'est un domaine qu'on oublie souvent dans l'Église, le domaine social. C'est quelque chose qui nous échappe un petit peu. Peut-être parce qu'on a peur que ce ne soit pas très spirituel. Sauf que ça fait partie des dons spirituels. Et puis, il y a les charismes. Alors, c'est un nom barbare, doxologique. Ça, ce sont les dons de parler diverses langues. Et ça mérite toute une étude à part qu'on ne fera pas ce matin. Mais ça fait partie aussi, les langues miraculeuses de Dieu font partie des dons. Et aujourd'hui encore, je crois qu'il y a parfois des missionnaires qui reçoivent ce don dans des pays où il est impossible de parler de l'Évangile à des gens dont on ne connaît pas le langage, et où là, le secours de l'Esprit est absolument indispensable pour faire passer la grâce de Dieu à travers ce message de l'Évangile dans une langue compréhensible. Alors, ici, vous avez quatre textes, si vous voulez y revenir à la maison, qui expliquent les dons, les charismes de Dieu. C'est facile à retenir, c'est Romains 12, 1 Corinthiens 12, déjà vous en avez les trois quarts. Romains 12, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30, et Éphésiens 4, verset 11. Et vous avez en rouge ici, alors on voit pas trop bien les couleurs, hein, et puis si pour peu que vous soyez daltonien, ça va pas vous aider, mais on va essayer de résumer assez vite. En rouge, vous avez les charismes missionnaires. Alors évidemment, quand on parle de missionnaire, ça rejoint le terme apôtre qui veut dire envoyé. L'apôtre, bien sûr, il y a eu les 12 apôtres qui ont eu un ministère spécial, extraordinaire. Mais le terme veut dire envoyé. On pourrait dire aujourd'hui, dans un langage moderne, chargé de mission, par une église, par exemple, pour aller implanter une autre église, pour aller annoncer l'évangile dans un autre endroit. Un implanteur d'église, donc. Il y a également l'évangéliste, qui a un don spécifique pour équiper l'église, pour atteindre le monde avec l'évangile, et lui-même va avoir un don particulier pour amener des âmes à Christ. Il y a aussi la foi qui va de l'avant, qui est important, parce que quand on va en mission, hein, il faut avancer, il faut pas reculer, hein. Il s'agit d'être nourri dans cette foi. Il y a même le pouvoir de guérison qui a été particulièrement manifesté à travers les apôtres dans l'église primitive. Voilà quelques exemples. Moi-même, j'ai du mal à voir les couleurs. Alors, bon. Ensuite, vous avez les charismes pastoraux. Alors, pastoraux, on pense tout de suite aux pasteurs, aux bergers enseignants. Souvent, les deux vont ensemble. On ne peut pas être pasteur ou ancien si on n'a pas la capacité d'enseigner. L'ancien doit être apte à enseigner. Ça, c'est une condition dont l'apôtre Paul nous parle dans 1 Timothée 3. Le pasteur, vous avez également le prédicateur. Ça, c'est un terme un peu actuel, mais on pourrait l'assimiler au prophète, au porte-parole de Dieu. Celui qui porte la parole de Dieu pour le peuple de Dieu, pas pour les gens du dehors. pour le peuple de Dieu. Il est spécialisé là-dedans. Mais le don pastoral, vous pouvez aussi le trouver à travers l'enseignant. Vous pouvez très bien avoir un don d'enseignement sans pour autant être appelé à être pasteur. Ça aide, mais c'est possible. Il y a aussi le don de présidence, le don de gouverner, de diriger. C'est pas donné à tout le monde. Ne soyez pas frustrés, mes amis, si vous n'avez pas ce don de gouverner. Ce don de leadership, ne soyez pas frustrés. D'ailleurs, c'est pas forcément les meilleures places, ça je peux vous dire. Mais ça fait partie des dons pastoraux. Ensuite, vous avez les dons, j'espère que je n'oublie rien, vous avez la parole de sagesse, la parole de connaissance. Ça peut venir de n'importe quel d'entre vous, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, d'apporter par l'Esprit Saint cet éclairage, cette sagesse, cette connaissance. Et il n'y a pas besoin de venir derrière la chair pour transmettre cette parole-là. Hein. Ça peut se faire entre individus. Hein. Vous avez ensuite les charismes sociaux. Alors, on y trouve le service, on y trouve la générosité, on y trouve la bienfaisance, on y trouve l'entraide, l'assistance. Si vous avez à cœur de servir, même les pauvres, de servir toutes sortes de catégories de gens qui, sur le plan social, vous ne l'excluez pas des dons spirituels. Ça fait partie du bien de l'Église, du travail de l'Église. Et on le voit très tôt dans l'Église primitive, quand il y a ce fameux problème en acte 6 où les veuves sont négligées dans l'Église et où il faut absolument créer des diaconats pour gérer ce problème. Parce qu'il n'est pas question que les apôtres abandonnent leur ministère de la parole de Dieu et de la prière pour tout faire. Parce que c'est un peu la mode, des fois, le pasteur il fait tout. Non, il ne fait pas tout. Et Dieu a pourvu à tous les besoins. Donc, charismes sociaux qui ont vraiment leur place. Et puis, les charismes doxologiques, je ne vais pas insister plus, c'est très spécialisé aussi. Alors, coucou. Aha. Was ist denn passiert? Ah! Voilà, mes petits-enfants. Alors, exercer ces dons, on peut le voir de différentes manières. Je dirais que les Corinthiens, on pourrait peut-être imaginer que ça se passe un peu comme ça. Vous voyez, ces trois enfants qui sont sur la plage, on est en vacances et on veut construire un château de sable. Alors, imaginez déjà les interférences, les petits conflits qui peuvent se poser. Alors, il y a un petit enfant, d'ailleurs, il dit ça, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est moi le meilleur. Il est au centre, il a sa pelle en plastique, il a son don spirituel, et il va vous montrer comment on fait un château de sable. Il est là au milieu de son château de sable, et avec sa pelle, il va exercer son don. Et manque de bol, il va faire écrouler le château de sable. Parce qu'il se croit le meilleur, alors qu'il lui manque quelque chose. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, les Corinthiens, eux, ils avaient été comblés, nous dit l'apôtre Paul. Ça, on l'a vu au tout début, il y a plus d'un an de ça. Hein. Il ne leur manquait aucun don, il dit même. Mais ils n'avaient pas compris comment exercer ces dons. C'est pas le tout d'avoir des dons. Les dons, on peut les gaspiller, on peut ne pas les utiliser. Et là, évidemment, ça va poser un problème devant le Seigneur. Ils agissaient comme des enfants qui se chamaillent pour construire un château de sable. Moi, je veux faire comme ça. Moi, je veux faire ça. Moi, je veux, moi, je, moi, je. Et les Corinthiens, c'était des moi-je. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Christ. Ah, je suis plus spirituel que les autres. Je fais pas référence à un homme de Dieu. Non, je fais référence à Christ. Je suis plus spirituel, n'est-ce pas? Ils se croyaient très doués, très sages, mais bien loin de la maturité voulue par Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, au milieu d'eux, il y avait de l'orgueil, il y avait des jalousies, il y avait des comparaisons, il y avait des disputes, il y avait des considérations de personnes, des théologiens qui étaient plus hauts que les autres. Ils faisaient toute une hiérarchie comme ça. Et puis, ils étaient égocentriques parce qu'à certains égards, certains de leurs dons, ils voulaient les utiliser pour leur bien personnel, pour leur édification personnelle. Ils n'avaient pas compris la définition du don spirituel. Mais le problème, c'est que pour construire son église, Jésus-Christ, je vais me mettre là peut-être parce que ça gêne un peu, pour construire son église, Jésus-Christ a besoin de personnes matures qui se laissent diriger par le Saint-Esprit et non par leur instinct. Et vous savez, dans certaines églises, on veut pas reconnaître les responsables spirituels parce que c'est un peu gênant. Et finalement, qu'est-ce qui se traduit dans ces cas-là? C'est les dons naturels qui ressortent. C'est-à-dire, c'est les gens les plus influents qui ont le caractère le plus fort qui finissent par diriger l'église. Et ça, c'est dangereux au possible. Parce que on peut diriger une église si on a le don de diriger. C'est pas si on a simplement la nature. Quelqu'un qui est autoritaire ou qui est dirigiste ou qui, c'est pas ça. Même si il faut avoir le don de diriger. C'est pourquoi il s'empresse de leur dire une chose à la fin du fameux chapitre 12 qu'on a vu la dernière fois au verset 31. Alors là, soyez plein de zèle pour les dons les plus importants. Alors vous avez peut-être dans votre Bible aspiré aux dons les meilleurs. C'est pas le sens du mot. Parce qu'aspirer, ça pourrait dire, bon, le Saint-Esprit nous a donné des dons d'une manière souveraine, mais au lieu d'utiliser ces dons-là, moi j'aspire à autre chose. C'est pas ça la pensée de la parole de Dieu ici. C'est, soyez plein de zèle pour les dons les plus importants. Donc, sous-entendu, si vous avez un don qui est dans les premiers de la liste de Dieu, il faut surtout pas le négliger, n'est-ce pas? Il faut vraiment le faire fructifier. Il faut vraiment l'exercer. Mais il dit, il s'empresse de leur dire, parce qu'il les connaît trop bien. C'est lui qui a implanté l'Église. Hein. Il dit, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Quelle belle expression, n'est-ce pas? La voie par excellence. Alors on pourrait traduire, je vais encore vous montrer la façon la plus extraordinaire, la plus formidable pour exercer vos dons selon la volonté de Dieu. Il les matraque pas trop en disant il les a pas mal déjà hein il leur a déjà pas mal parlé de leurs petits soucis, mais là il leur montre vraiment la voie par excellence pour les encourager à exercer leurs dons de la bonne façon. Elle se résume ainsi, on pourrait le faire sous cette forme, quand bien même j'aurai les dons les plus utiles, la foi la plus forte, les œuvres les plus remarquables, si je fais tout cela sans être animé par l'amour divin, ça ne sert à rien. Ah. Et là, on n'aurait même pas dû faire un chapitre 12 et 13. Vous savez que c'est pas inspiré les noms de chapitres, les numéros de chapitres. Hein. Je pense qu'on aurait dû faire un seul chapitre. Et même avec le 14 derrière, mais au moins 12 et 13 auraient dû être ensemble. Parce qu'on voit bien que on parle que de l'amour et on ne parle pas des dons, ou on parle des dons et on ne parle pas de l'amour. Et en fait, les deux vont ensemble. Si j'exerce les dons pour satisfaire mon ego, pour me vanter, pour me comparer, par jalousie, ça ne sert à rien. Et en fait, si on va au bout de l'idée, eh bien, ce sera brûlé par le feu que l'on trouve en 1 Corinthiens 3, vous savez, le foin, le chaume et tout ça, hein. Ça va brûler d'un coup. Alors voyons le dilemme en détail selon 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Si je parle, alors vous connaissez bien ce texte, je pense, hein, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, le melon, hein. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Waouh. Alors, une petite note à ce sujet. Paul ne dit pas ici qu'il existe un langage angélique, un langage spécial des anges. Il fait une supposition. Si je venais à parler un langage, quel qu'il soit, les hommes, les anges, langage quel qu'il soit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et d'ailleurs, une petite réflexion en passant, si vous examinez l'Écriture, vous ne trouverez jamais un ange qui parle aux hommes et même à Dieu au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, où les bergers ont vu les anges parler. Ils parlent toujours en langue compréhensible, en langue du territoire. Exactement comme dans Acte 2 où les langues surnaturelles ont servi à parler des merveilles de Dieu à des gens venus de différents pays qui comprenaient dans leur langue les merveilles de Dieu et qui étaient préparés ainsi à entendre l'évangile dans la langue que Pierre a utilisée, qui était la langue de là-bas. Les dons, la foi, les œuvres n'ont aucun sens s'ils ne sont pas motivés par l'amour. Mais question, quelle sorte d'amour ? Alors, on va d'abord parler dans un premier temps de l'amour dont il n'est pas question. Parce qu'alors l'amour, vous aurez remarqué avec moi, dans le monde qu'on vit et même dans l'Église en général, l'amour, on le met à toutes les sauces. C'est vrai qu'on est un peu gastronome, hein, en France, on aime bien faire des sauces. Donc l'amour, on le fait à toutes les sauces. Il ne s'agit pas de l'amour romantique, il ne s'agit pas de l'amour humaniste, il ne s'agit pas d'un sentimentalisme ou d'une émotion du moment. Il ne s'agit pas de l'amour légaliste et moralisateur. Il ne s'agit pas de l'amitié sélective, toi je t'aime, toi un peu moins. La sympathie avec ses sourires de façade, non, ce n'est pas ça. La fraternité, très tolérante, chaleureuse, vous savez, sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas ça l'amour dont il est question ici. Ça n'est pas non plus la charité faite d'aumônes apaisantes pour notre conscience. Ah, j'ai donné 1 euro à la Croix-Rouge. Je me sens léger, n'est-ce pas? Et je me sens un bon chrétien. Ce n'est pas cet amour-là dont il est question. Ce n'est pas non plus un état d'âme sans action. De dire, oh, c'est trop malheureux, c'est trop terrible. Puis, de ne pas être conduit à une action. Seul le Saint-Esprit peut nous stimuler à dire, attends, voilà, il y a un truc que tu peux faire là. Et peut-être ça sera un autre qui va le faire, mais toi, tu peux le faire aussi. C'est tout autre chose, en tout cas, dont il est question ici, parce que l'amour humain, vous en conviendrez pour moi, comme moi, est fragile, est fluctuant, parfois intéressé et limité dans le temps. Et même au niveau du couple, si jamais on se met dans l'idée que l'amour romantique suffira pour tenir votre couple toute votre vie, je dois vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et s'il y a une chose dont Dieu m'a convaincu le jour de mon mariage, à 33 ans, c'était déjà tard, hein, c'est ce verset qu'on va voir. L'amour dont il est question, l'amour de Dieu ne meurt jamais. Et je peux vous dire que le jour de mon mariage, quand j'avais lu ça quelque temps avant, ça m'a soulagé. Vous pouvez pas imaginer. Parce que j'ai dit, effectivement, humainement, je me sens pas capable. Ah, mais tu sais, tu te maries devant Dieu pour la vie, hein. Moi, j'avais des copines au lycée, elles me disaient, ah, supporter le même bonhomme toute sa vie? Oh, pas question. Eh oui, mais selon le Seigneur, c'est différent les choses, n'est-ce pas? Parce que là aussi, nous sommes un peu comme les dons sont complémentaires, les personnes se complètent aussi, hein. Et quand on dit une âme sœur, c'est pas rien. Et donc, il n'y a que l'amour du Seigneur qui ne meurt jamais. L'amour agapé, vous connaissez ce mot. Un amour éternel. Un amour parfait. Et en plus, moi, ce qui m'a réconforté et rassuré, c'est que c'est une source et une énergie inépuisable. Si vous avez un petit coup de mou dans votre couple, ça peut arriver. Mais confiez-vous au Seigneur. Si vous vous branchez à l'amour de Dieu en Jésus-Christ à travers son Esprit Saint, c'est un amour inépuisable. Si vous vous confiez à un amour romantique, sentimentaliste, vous n'irez pas très loin. Mais si vous puisez à la source divine, et y compris pour votre prochain, y compris pour vos enfants, y compris cet amour-là, il est éternel, il est parfait. Ce n'est pas une contrefaçon humaine, ce n'est pas une façon de bien faire les choses et d'être content après. Paul nous dit, les prophéties et la connaissance disparaîtront un jour, les langues cesseront, mais l'amour dont il est question est tout simplement divin, c'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Vous connaissez bien la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22, et on pourrait dire que c'est un amour surnaturel. Oh, moi, ça me fait du bien de voir ça, parce que franchement, humainement, hein, c'est pas génial. Et l'apôtre Jean, qui était l'apôtre intime de Jésus, l'ami intime, le disciple que Jésus aimait, eh bien, il nous dit l'amour est de Dieu. Dans sa première lettre, chapitre 4, verset 7, l'amour est de Dieu. L'amour vient de Dieu. L'amour ne vient pas de mes possibilités humaines tellement limitées. Si je me confie dans ces capacités humaines, je vais me planter, et je me le suis déjà planté, X fois. Seule une personne née de l'Esprit Saint peut aimer ainsi. Mais elle n'aime pas toujours comme ça. Parce que seule une personne qui se laisse diriger par l'Esprit Saint peut aimer ainsi, même si elle est née de nouveau. Les Corinthiens, ils étaient nés de nouveau. Enfin, il y avait peut-être aussi des incroyants parmi eux, mais il y a quand même un grand nombre de Corinthiens qui étaient nés de nouveau, et pourtant ils étaient charnels, et donc ils ne pouvaient pas exercer leurs dons comme Dieu voulait, parce qu'il leur manquait cette communion avec le Saint-Esprit, cette dépendance permanente du Saint-Esprit pour dire « Seigneur, t'as vu mon cœur là, il est tortueux, il... Non, non, Seigneur, j'ai besoin de ton amour à toi, Seigneur. Remplis-moi de cet amour, j'en ai besoin du matin au soir. » Et à la moindre occasion, j'en ai besoin. Nos journées sont parfois agitées. Les Corinthiens donc étaient charnels et leur effort donc était vain. Alors certains ont appelé un Corinthiens 13 un hymne à l'amour. C'est vrai que c'est un beau texte, n'est-ce pas? C'est magnifique ce texte. Et moi, une sœur en Christ, quand nous nous sommes mariés avec Farida, elle me l'a fait au crochet. 1 Corinthiens 13, et nous l'avons dans notre salon, au fond de la pièce, et ils ont signé en bas. Et même un non-croyant est venu un jour, et puis il regarde, il dit, mais c'est la Bible, ça. Alors, ce qui m'a frappé en reprenant ce texte, et je répète, pour moi, c'était le texte le plus redoutable, c'est deux mots, et s'il y a deux mots que vous devez retenir, ce sont ceux-là. Parce qu'il me semble que tous les autres déclinaisons de l'amour découlent de ces deux qualités fondamentales, la patience et la serviabilité. L'amour est patient, l'amour est serviable. Et il ne s'agit pas de regarder que le serviable ou de regarder que le patient. Il est patient et il est serviable. Il y a les deux. Nous, on a tendance à se polariser sur un truc tout le temps. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, nos yeux se posent sur un truc et puis on n'en démord pas. Hein. À côté, il n'y a plus rien. Mais la Bible n'est pas faite comme ça. La Bible, c'est un diamant. C'est un diamant qui se regarde dans tous les sens. Et la lumière passe dans tous les sens. Alors, retenons ces mots. Patience, serviabilité. Ce sont les deux premières caractéristiques dans la liste. L'amour divin est patient, comme l'amour du Père Céleste est patient. Et si vous lisez 2 Pierre 3, verset 9, Pierre nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. » Vous en êtes conscient de ça? Envers nous. Il dit pas envers les autres. Envers nous. « Voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Sommes-nous passés par la repentance? Sommes-nous passés par ce changement de mentalité vis-à-vis de Jésus-Christ? Ce changement de pensée? Ce changement de conduite? D'être prêt à être conduit par le Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau, qui a fait de nous de nouvelles créatures en Christ? Et je ne sais pas si on imagine le potentiel que nous avons en Christ. Rav Chalice a écrit un livre qui s'appelle « Explosion de vie ». Je vous conseille de le lire. Il y a longtemps que je n'ai pas remis mon nez dedans, mais il essaie d'expliquer ça. le potentiel que tu as en Christ. Tu as des dons, tu as un capital spirituel, mais solidaire. Imaginez la patience de Dieu. Je réfléchissais à ça ces temps-ci. J'ai dit, voilà, Dieu fait une création merveilleuse, parfaite. Et au lendemain de la création, déjà c'est la chute. Vous imaginez, vous ? Vous préparez un truc extraordinaire, une fête de famille, un truc. Et la fête n'est pas commencée que, paf, il y en a déjà deux qui se... Vous avez envie de dire, bon, allez, rentrez chez vous. Le meurtre d'Abel par Caïn, tout de suite après. Horrible, non ? Nous, on lit ça comme ça, mais c'est affreux. Je me mets à la place de Dieu, je dis, mais enfin, mais c'est pas possible. Moi, j'ai créé la perfection et voilà que on s'entretue. Après, vous avez la violence des hommes qui conduit au déluge. Ensuite, vous avez le peuple juif qui est rebelle et contredisant au désert. Ensuite, vous avez le peuple désobéissant au temps des juges et des prophètes. Et je résume, hein. Parce que c'est tous les livres de l'Ancien Testament, tout ça. Et puis vous avez le Fils de Dieu qui devrait être reçu avec les honneurs qui se doivent et qui est reçu par les siens comme un chien dans un jeu de quilles. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est comme si vous allez dans votre famille, toc, 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 c'est moi. Non, on veut pas te recevoir. C'est ça que Jésus a vécu parmi les siens. Quelle patience! Moi, je serais retourné au ciel, hein. Et puis un monde toujours rebelle aujourd'hui encore. Oh Dieu, tu nous casses les pieds avec ton Dieu, tes bondieuseries, j'ai entendu, au boulot. Oh, avec ces bondieuseries. Et puis cette église universelle qui draine tant de problèmes, non seulement à Corinthe, mais dans bien d'autres endroits. Des schismes, des hérésies, des sectes, la difficulté de grandir en maturité. Alors, Dieu patiente encore et encore. Êtes-vous convaincu de la patience de Dieu? J'ose pas vous faire lever la main, mais j'espère que vous êtes conscient de cette patience de Dieu à l'égard de tous. Et que feriez-vous? Ben moi, je vais vous dire, humainement parlant, il y a longtemps que j'aurais jeté l'éponge. Il y a longtemps que j'aurais dit, il y en a marre. Moi, j'arrête pas de travailler pour votre bien, pour votre bonheur, pour votre salut, pour votre édification, pour que tout aille bien, pour que les hommes s'entendent entre eux, pour que la diversité, on l'accepte, etc. Et qu'on cherche l'unité. Et vous, vous vous chamaillez comme des gamins sur un château de sable. J'aurais dit, j'en ai marre. Fichez-moi le camp. Mais ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour humain qui craque. À un moment donné, l'amour de Dieu est patient. Mais l'amour divin est patient et le mot grec signifie capacité de ne pas user de représailles si on est traité injustement. Il y a toute la méditation qui est derrière. Attends, ouais. Il m'a traité comme ça, qu'est-ce que je vais faire pour lui rendre la monnaie? Hein? Vous avez peut-être eu des fois ces pensées qui vous atteignent. Verset 5, il ne s'irrite pas. La colère jaillit souvent de l'impatience. Vous êtes dans votre voiture et il y en a un devant qui avance pas. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes impatient. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous vous mettez en colère. Vous klaxonnez, vous, hein? Non, ça vous arrive jamais, ça. Non. Il ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire ruminer. En attendant d'y voir plus clair. Des fois, on commence à ruminer. Moi, c'est mon truc, ça. Je commence à ruminer avant de me dire, attends, hey, laisse découler un peu. Attends un peu. Tu verras bien. Ne fais pas de préjugés comme ça. Il ne médite pas dans l'impatience de voir des progrès. Il ne comptabilise pas. Il y a cette idée aussi de tenir un carnet de ce que les autres m'ont fait comme crasse. C'est ça l'idée de ce mot. Il ne comptabilise pas les coups reçus dans l'impatience qu'on en finisse. L'amour est patient. Verset 7, il pardonne tout. Et nous, on sait que ça veut dire, même jusqu'à 77 fois cette fois. Qui parmi vous a pardonné 77 fois cette fois? Moi, en tout cas, je pense pas que ça me soit arrivé pour une même personne. Hein. L'amour est patient. Il croit tout. Il renouvelle sa confiance sans cesse. Il ne désespère pas, il espère tout, même si les progrès sont lents. Et parfois dans l'Écriture, c'est dit, vous êtes lent à comprendre. Vous êtes devenu lent à comprendre. Hébreux nous dit, vous devriez être des maîtres. Et vous êtes lent, mais je suis patient. Parce que je vous aime. Il supporte tout, même si le temps lui paraît long. Il n'abandonne pas son église sur un coup de tête. Il patiente. C'est aussi une preuve d'amour, ça. De patienter, de dire, bon, c'est dur, c'est pas facile, mais Seigneur, toi, t'as patienté pour moi, alors je patiente aussi pour mes frères et sœurs. Et je prie pour eux. Voilà. Ça, c'est l'amour patient. L'amour patient de Dieu. Alors, il y a un petit mot grec pour ceux que ça intéresse. Supporter tout, ça veut dire demeurer ferme dans des circonstances désagréables. C'est vrai que c'est pas la mode, ça. Parce qu'on est dans un monde hédoniste, un monde qui aime le plaisir, un monde qui aime la sérénité, un monde qui aime être bien, se sentir bien dans mon corps et se sentir bien dans ma peau. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Sauf que, avec Dieu, c'est des fois comme ça. Oui, heureusement, hein. Je veux pas vous dire que c'est le contraire parce que je sais pas si je serai encore avec lui, mais, il y a aussi des moments désagréables dans la vie avec Dieu. L'amour est patient, même dans ces moments-là. Il faut vraiment le secours divin pour être véritablement patient. Et l'amour divin est aussi serviable. Et là, nous voulons jeter un coup d'œil sur l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à lui qu'il faut tout le temps revenir pour se ressourcer, n'est-ce pas ? Dans la patience et dans la serviabilité. Un beau passage que vous connaissez bien, Philippiens 2, 5 à 8, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, et j'ai rajouté comme un capital à garder pour soi-même, parce que ça rejoint un peu cette idée-là, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sommes-nous dans cette attitude ? Vous savez que le mot chrétien veut dire petit Christ, hein ? On est censé refléter sa patience et sa serviabilité, cet esprit de serviteur. Alors nous voyons-nous comme des serviteurs ? Parfois, dans une église, on peut chercher les positions, mais c'est pas ça. C'est ça, c'est pas l'amour, n'est-ce pas ? Est-ce que nous sommes capables de laver les pieds de nos frères et sœurs comme lui l'a fait, alors que c'était pas son rôle ? C'était lui le maître, il n'était pas serviteur. Est-ce que nous sommes capables de nous dépouiller de quelque chose pour Christ, de nous humilier un petit peu pour lui et de servir sans broncher et sans nous plaindre ? Waouh ! Quel programme, hein ? Parce que ça, il y a des moments où on est comme ça et on a besoin de se rebrancher, vous savez, comme une voiture électrique. Quand on arrive en bas, il faut remettre la prise et puis il faut que ça se recharge. Hein. Je fais un petit peu de pub là, en passant. L'amour divin est serviable. Verset 4, l'amour n'est pas jaloux. Il n'est pas envieux, il n'envie pas la position de l'autre. Il a une position de serviteur et il est heureux dans cette position de serviteur. Il est heureux avec son maître et il serait prêt à faire, vous savez, comme dans l'Ancien Testament, mettre un petit anneau à son oreille en disant tu me rends ma liberté, mais non, je veux te servir, moi. Je veux rester avec toi. Hein. T'es le meilleur des maîtres. Hein. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Il n'envie pas la position de l'autre. Il n'envie pas le don de l'autre. Il n'envie pas les biens de l'autre, ni son bonheur. Au contraire, il se réjouit du bonheur de l'autre. Pas simplement... Il console quand tout va mal. Non, il se réjouit du bonheur de l'autre. Il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Tout ce qu'il fait, de toute façon, il sait que c'est Christ qui l'accomplit à travers sa modeste personne. Donc c'est pas la peine de se comparer. Si je fais quelque chose de bien, à vos yeux, ne cherchez pas à savoir d'où ça vient. C'est lui qui arrive à le faire. Sinon, moi personnellement, humainement, ce n'est pas possible. Il ne fait rien de malhonnête ou d'inconvenant, car il sait qu'en tant que serviteur, il va rendre des comptes. Il ne cherche pas son intérêt, mais celui de son maître et celui de son prochain, avant même le sien, dans certains cas. Et verset 6, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Vous voyez, le serviteur, il a de la joie aussi. C'est pas parce qu'on est serviteur que on est dans l'esclavage, vous savez, au sens où on l'entend souvent. Avec Dieu, c'est pas comme ça. L'important, c'est la gloire de Christ. Et je me suis souvenu de Jean-Baptiste, quand les gens sont venus le voir et ils lui ont dit, dis donc, tous ceux qui venaient vers toi, là, ils sont tous chez Jésus maintenant, c'est lui qui les baptise. Un peu comme nous, on dirait, dis donc, ils sont tous passés dans l'église d'à côté, hein. Puis toi, là, hein. Et Jean-Baptiste, il aurait pu être nourri d'une certaine jalousie, d'une certaine rancune, amertume. Non. Habité par l'Esprit, rempli par l'Esprit, conduit par l'Esprit, Jean-Baptiste eut une joie complète. Une joie complète. Il a même dit, il faut qu'il croisse et moi que je diminue. Et nous, nous sommes tous dans cette configuration-là. Il faut qu'en nous, Christ croisse et que notre vieil homme, il diminue. Il faut que l'Esprit Saint prenne le contrôle de plus en plus et que nous nous diminuions dans notre côté charnel et humain. En résumé, l'exercice d'un don est inconcevable sans être animé par l'amour divin produit par le Saint-Esprit en nous. La barbe paraît haute, mais si nous sommes en Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons cette source inépuisable, nous pouvons nous y brancher quand nous voulons. Jour et nuit, de 0h à 24h. L'amour divin est inconcevable sans exercer nos dons pour servir les autres. Si je passe mon temps à chercher mon édification personnelle, je passe à côté de la voie par excellence. L'Esprit Saint distribue les dons comme il l'entend, et l'Esprit Saint est le seul à pouvoir produire ce fruit qu'est l'amour divin, qui peut me permettre d'exercer mes dons de la meilleure façon. Mais nous devons collaborer avec lui et ne pas croire que notre instinct naturel peut quoi que ce soit. Conclusion, il est si facile de se vanter de ses dons, de sa foi, de ses bonnes œuvres, mais ce n'est pas l'amour. Il est facile d'être tout feu tout flamme, mais le temps a-t-il eu raison de notre patience? Quand nous perdons patience, nous quittons la voie par excellence. Il est si facile d'attendre des autres sans jamais rien donner aux autres. Il est si facile de rechercher le statut, la position, mais aspirons-nous à servir comme Christ, avec son lot de renoncement, d'humiliation, parfois la voie par excellence. Voilà la voie par excellence, le chemin du véritable amour. Il est si facile de croire qu'on aime alors que nous sommes de simples Corinthiens ou pharisiens qui cherchons à nous mesurer, à nous justifier et parfois même à nous glorifier de nos œuvres. Mais peut-être aimez-vous sans le savoir, car votre seconde nature en Christ a pris le dessus au risque de vous étonner, vous-même. Ça vous est jamais arrivé, ça, de vous dire, mais j'ai réagi à un truc là, ça c'est pas moi. Ça vous est jamais arrivé? C'est pas moi, c'est pas possible. D'habitude, je réagis pas comme ça. Dans les mêmes circonstances, je me mets en colère, je m'impatiente, non, là, j'étais calme, serein, mais c'est étrange, ça fait presque peur. Ça fait presque flipper. Non, ça fait pas flipper, ça donne de la joie de se dire, ah, qu'est-ce que c'est bien quand le Seigneur y fait les choses, hein? Formidable, hein? Alors, je vous cite Romains 8, 4 dans cette traduction parole vivante, pour montrer un petit peu comment collaborer avec le Saint-Esprit. Paul dit aux Romains, désormais, une vie juste conforme aux exigences de Dieu devient possible. Oui, mes amis, elle devient possible, à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de notre nature déchue, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, à chaque instant, cette dépendance permanente de l'Esprit de Dieu. Et je dirais que ça va bien avec l'idée de prier sans cesse, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, là. Là, ça va. Ouh. Là, je sens que la moutarde commence à monter au nez, un peu comme Paul à Athènes, et finalement, l'Esprit l'a contrôlé, il a pu parler. ça s'est bien passé. Alors l'Esprit Saint nous propose un amour inépuisable. Puisons-nous à la bonne source. Comprenons-nous et connaissons-nous cet amour. Oui, c'est possible. Alors on va faire une prière à partir de cette prière merveilleuse de l'apôtre Paul en Éphésiens 3, versets 16-21. C'est peut-être un texte qui a longtemps que vous n'avez pas lu, mais je vous encourage vraiment à prier cette prière tous les jours, peut-être de cette semaine, pourquoi pas. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints, pas tout seul dans son coin, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Alors vous pourrez le reprendre à la maison calmement. On va écouter un chant pour finir. Il n'y a pas d'image, mais c'est pas grave. Alors on voit pas grand-chose.
Que me voudrait cet avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. Tout secret me serait révélé, quand j'atteindrai le savoir, le génie, quand par pitié je donnerai mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, sans mots,
Devant toi, te dire merci parce que tu es une source inépuisable, parce que tu es le modèle, notre modèle, pour aimer comme il le faut. Seigneur, on te prie effectivement, comme cette prière de Paul, de nous fortifier par ton esprit dans notre être intérieur, que Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous soyons capables de marcher comme lui, Seigneur. Que nous soyons capables de comprendre et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Et que vraiment jour après jour, nous sortions de toutes nos frustrations spirituelles en nous laissant vraiment remplir par ton esprit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et que nous puissions ainsi exercer les dons que tu nous as fait la grâce de nous donner pour les autres. Et que tu nous ouvres de nouvelles portes même, de nouveaux horizons, individuellement et collectivement en tant qu'Église, Seigneur, et que, au final, toute la gloire te revienne, parce qu'il n'y a pas une chose qu'on puisse faire bien sans que ce soit toi qui l'accomplis en nous. Sois glorifié, Seigneur, et bénis ton Église, parce que là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux, et il est bon d'être entre frères et sœurs, car c'est là que tu envoies la bénédiction. Amen. Dieu vous bénisse. Oups.